Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
C'était un 22 avril 1724. Le philosophe Emmanuel Kant voyait le jour dans la ville, alors prussienne de Königsberg, devenue aujourd'hui Kaliningrad en Russie. Ce n'est pourtant qu'en 1781, soit 57 ans plus tard, qu'il publie sa critique de la raison pure, le texte fondateur de sa pensée qui fait sa renommée. Kant peut être assimilé à toute une série de phénomènes marquants, des lumières à la raison, et je me suis dit que dans cette époque où l'on peut avoir un certain nombre de craintes au sujet justement de la permanence des Lumières, mais aussi du triomphe de la raison, eh bien il fallait parler d'Emmanuel Kant dans les actualités. Avec vous, Michael Fessel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'école polytechnique, on vous doit notamment Kant et l'équivoque du monde, publié aux éditions du CNR, mais aussi Kant inactuel d'Antoine Grandjean, un ouvrage collectif qui va paraître le 10 avril aux presses universitaires de France. Je me suis dit aussi qu'il y avait dans votre philosophie, parfois inquiète, ce livre que vous aviez consacré aux années 30, de quoi réfléchir justement sur la postérité d'un philosophe comme Emmanuel Kant. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi Kant est aussi important en philosophie.
C'est une vaste question. Je dirais qu'un grand philosophe, c'est un philosophe qui opère un certain nombre de ruptures, de transformations par rapport à la manière dont on analyse, on comprend les choses. Et puis le deuxième critère, et là Kant le remplit parfaitement, c'est un philosophe dont on ne peut pas parler, après qu'il a écrit et après que Kant a écrit, donc à la fin du XVIIIe siècle, tous les grands philosophes se sont référés à lui, positivement ou négativement. C'est-à-dire qu'on avait pris conscience qu'il y avait là une transformation de la manière d'envisager le savoir et peut-être la philosophie elle-même, qui était en un sens irréversible. Alors le grand mot de la philosophie de Kant, celui qui donne d'ailleurs son titre à ses principales œuvres, c'est le mot de critique. Et Kant, évidemment, c'est un philosophe qui va essayer de montrer, ou qui va montrer, que la première démarche philosophique, c'est celle, pas seulement du doute, mais de la critique, c'est-à-dire on a l'habitude, nous, de penser que la philosophie remet en cause spontanément les autorités, les pouvoirs, les savoirs qui ne sont pas fondés. Eh bien, cette idée qui est devenue en quelque sorte évidente aujourd'hui, c'est Kant qui la fonde. C'est-à-dire que c'est le philosophe des Lumières, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire un philosophe qui interroge les savoirs sans jamais les considérer comme dogmatiques ou comme absolument inquestionnables.
Mais qu'est-ce que ça veut dire critique pour Emmanuel Kant ?
Critique, l'étymologie le montre, ça vient de crise, c'est-à-dire qu'au moment où Kant écrit, il y a une crise dans l'ordre des savoirs, aussi des pouvoirs, mais d'abord des savoirs, c'est-à-dire au fond, à propos de ce qui est la grande affaire de Kant au départ, c'est-à-dire la métaphysique. La métaphysique, c'est l'ensemble, c'est la discipline qui traite de ce qui est au-delà de la nature, au-delà du sensible, Dieu, l'âme, le monde. Ces questions-là qui étaient des questions passionnantes et passionnées, je dirais, à l'époque de Kant, et qui le sont demeurées, en particulier celle de Dieu, étaient, au moment où Kant écrit, prises dans des oppositions, des antinomies, des conflits. Conflits théoriques, d'une part, mais on voit bien qu'à propos de la question de Dieu, les conflits philosophiques et métaphysiques sont souvent aussi des conflits, je dirais, guerriers et d'une violence extrême. Autrement dit, Kant a voulu refonder le savoir pour sortir de cette crise du savoir qui caractérise la fin du XVIIIe siècle, tenter de réfléchir non pas tant à ce que l'on pouvait savoir de Dieu, de la liberté, de l'âme, mais aux conditions qui faisait que l'on pouvait avoir un savoir objectif. Critique, cela veut dire ça. L'autre mot un peu technique que Kant emploie pour définir sa pensée, c'est transcendantal. Transcendantal, ça veut dire je ne me jette pas dans l'arène des savoirs, je ne prends pas parti immédiatement, je réfléchis aux conditions réflexives qui permettent de dire quelque chose sur Dieu, sur l'âme, sur la liberté.
Oui, c'est-à-dire que, si je vous suis bien, Michael Fessel, l'une des manières de présenter Kant, c'est un philosophe qui a réfléchi à ce que l'on était capable de savoir de sciences certaines. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour un philosophe d'avoir dans des catégories du savoir, des catégories de l'entendement ?
Oui, la première question à laquelle répond sa philosophie, c'est « que puis-je savoir ?». Autrement dit, c'est pas tellement une philosophie du savoir comme telle, qui va produire des thèses, il en produit aussi par ailleurs. C'est une philosophie qui considère, et ça c'est quelque chose qui méthodologiquement est resté fondamental, non seulement en philosophie, mais aussi en sciences sociales, qui considère qu'il y a un préalable au savoir. C'est une réflexion sur les catégories du savoir. Il ne faut pas avoir une sorte de naïveté par rapport au concept que l'on utilise même dans la langue ordinaire pour expliquer des phénomènes. Quand t'es quelqu'un qui Dostoïevski, par exemple, a beaucoup réfléchi au statut du concept de cause. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque je dis que le vent est la cause du mouvement des branches d'un arbre? Quelles sont aussi les limites dans lesquelles je peux employer ce terme? Par exemple, on voit très bien, si je dis que les causes, la cause ou la causalité ne fonctionne que dans la nature, alors je laisse une place pour la liberté. Si je dis qu'elle vaut en général pour toute chose, alors nous tombons dans un déterminisme absolu. Autrement dit, ce qu'on peut retenir déjà de Kant, je dirais plutôt que qu'une doctrine, c'est une méthode qui consiste à ne pas être dupe des concepts que nous employons. Et peut-être on prendra quelques exemples au courant de cet entretien, mais l'une des choses qui demeure éminemment actuelle, me semble-t-il, c'est de ne pas, je dirais, reprendre de manière plus ou moins naïve les croyances que nous avons relativement à ce que vaut la science, à ce que prétend la religion.
Alors justement, parce que on pourrait se dire que Kant est particulièrement important aujourd'hui parce que un certain nombre d'idéaux dans lesquels il a cru, la raison, par exemple, la science, sont aujourd'hui en partie menacés, Michael Fessel.
Bon, on peut pas dire que nous vivons une époque, disons, de lumière absolument déchaînée. Il est certain que Kant est quelqu'un qui a pensé les lumières. Il a eu très très tôt conscience, enfin très conscient. Il est, comme vous l'avez rappelé, d'ailleurs, il devient conscient sur le tard. Hein, c'est que Kant est aussi un motif d'espérance pour tous les philosophes qui ont du mal à faire une œuvre, puisqu'il a fini par en faire une après quasiment 60 ans. Mais néanmoins, il a eu très conscience d'être, je dirais, un représentant du siècle des Lumières. Il a conscience d'être, de penser dans un contexte historique qui est relativement favorable à la raison, à la transparence du débat public, à l'exigence d'argumentation et à la critique en particulier des dogmes religieux. Mais pour autant, ce n'est pas un philosophe que je qualifierais d'optimiste, puisque même dans le texte le plus connu peut-être sur cette question qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» lorsqu'il enjoint aux hommes, enfin aux humains, de penser par eux-mêmes, de sortir de leur état de minorité ou de tutelle, d'essayer de faire usage de leur propre entendement. Même dans ce texte, il ne méconnaît pas du tout, je dirais, la tendance de l'humanité en général à vouloir se choisir des maîtres, à vouloir continuer à vivre sous des tutelles, à préférer se voir dicter des modes de vie par des autorités extérieures. Donc c'est un philosophe qui, en même temps qu'il fait le diagnostic des Lumières, comprend très bien qu'elles sont ou elles seront systématiquement en danger. Il a un avantage sur nous, cela dit, c'est qu'il a, de son propre vivant, vécu ce qu'il a considéré, à tort ou à raison, comme la réalisation du siècle des Lumières, qu'il avait appelé de ses voeux dès les années 1780, puisqu'il a vécu la Révolution française, à laquelle il a été fidèle. Il a un avantage sur nous, il a cru voir, je pense qu'il a vu à raison, dans la Révolution française, une sorte de réalisation, même partielle, même imparfaite des Lumières dans le monde. Aujourd'hui, nous en sommes peut-être assez loin.
Pourquoi son attachement à la raison, Michael Fessel ?
Parce que la raison, c'est le seul moyen, je dirais, de régler des conflits autrement que par la violence. Kant est quelqu'un qui édifie des tribunaux, le tribunal de la raison, c'est une formule qu'il emploie souvent, pour régler les différends par des modes d'argumentation et pour éviter qu'ils ne dégénèrent en guerre. En particulier, comme c'est un philosophe de l'universel, il a pris très vite conscience que ce qui est en jeu, philosophiquement et politiquement, ce n'est peut-être pas tant l'opposition, comme on dit aujourd'hui, l'universel et du particulier. Ce qui est particulièrement violent dans l'histoire, c'est les oppositions entre universelles, c'est-à-dire entre, par exemple, des religions qui prétendent être ou valoir pour tous. Évidemment, si plusieurs, deux religions ou plus prétendent valoir pour tous, être universel, alors nécessairement on rentre dans une logique de la guerre. Alors Kant, c'est quelqu'un qui préconise de prendre une certaine distance par rapport aux valeurs, aux oppositions, aux fois qui nous, généralement, constituent des motifs de violence, pour essayer de réfléchir par la raison aux conditions de possibilité de ce que nous disons et de ce que nous croyons.
Et alors, Kant, c'est aussi quelqu'un qui est important pour la mythologie des philosophes. Vous qui êtes philosophe, Michael Fessel, justement, Kant incarne ce philosophe pur esprit qui a une vie entièrement dédiée à la pensée. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
La vie de Kant, effectivement, elle peut être résumée assez rapidement. Vous avez dit, il est né à Königsberg, actuel Kaliningrad. D'ailleurs, évidemment, il a vécu une période d'occupation russe. Peut-être on y reviendra, de sa propre ville. Mais il n'est quasiment jamais sorti de sa ville, alors qu'il a vécu relativement tardivement. Il était, c'est la mythologie de Kant, on ne sait pas exactement si c'est vrai, mais en tout cas ça participe d'une certaine image. Quelqu'un qui avait une vie extrêmement régulière, il se levait à heure fixe, très tôt d'ailleurs. Alors est-ce qu'il était aussi sobre qu'on le dit? Ce n'est pas absolument certain. Il raconte dans un livre qui s'appelle L'Anthropologie qu'il buvait du vin tous les jours. Enfin, il y a une sociabilité, c'est l'homme des Lumières, hein. C'est tout de même, c'est pas l'homme des salons. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de salons à Königsberg à cette époque-là. Mais c'est un homme dont on peut dire qu'il s'est consacré à la pensée. Et sur un mode qui pourrait être un mode, je dirais, de renonciation à sa propre vie. Il n'a jamais été marié, on ne lui connaît aucune histoire amoureuse. Ce qui le rend néanmoins fascinant, si je puis dire, dans sa banalité, c'est que sa pensée, en revanche, est une pensée qui est assez, à bien des points, radicale au sens fort du terme, c'est-à-dire qui va à la racine des choses. C'est-à-dire, au fond, j'ai le sentiment, ça ne vaudrait pas que pour Kant, que quand on révolutionne la manière de penser, il est difficile de révolutionner la manière de vivre, et sa manière de vivre, je veux dire. Et par conséquent, c'est un philosophe qui n'a cessé de méditer la liberté, en penser même le caractère, je dirais, exclusif. C'est le philosophe qui va mettre la liberté à la place de Dieu, au principe même de la philosophie. Mais c'est un homme qui n'aura pas fait un usage personnel, je dirais, de cette propre liberté. Mais comme il nous l'a légué, d'une certaine manière, nous pouvons lui en rendre peut-être hommage.
Et ce qui signifie qu'aujourd'hui, en fait, c'est, comme vous l'avez dit, impossible de penser sans Kant. C'est possible de penser contre Kant.
Ah, c'est possible de penser contre Kant, et certains d'ailleurs ne s'en privent pas, sauf parfois d'ailleurs sans le savoir parfois. Il est possible évidemment de considérer que cette raison des Lumières, cette raison qui n'est pas une raison substantielle, c'est pas la raison de Dieu, ça n'est pas une raison que l'on affirme pour nous-mêmes. Au fond, Kant, c'est quelqu'un qui dirait qu'on ne peut pas dire notre raison. La raison, ça n'est pas la raison occidentale, la fortiori pas la raison chrétienne ou française ou d'une autre religion. On peut penser, Kant, c'est quelqu'un qui affirme que la raison, c'est plutôt une méthode, des procédures, une manière au fond d'envisager toute chose du point de vue de l'universel. Alors, en ce sens, évidemment, on peut penser contre Kant, et d'ailleurs, puisque on l'a évoqué rapidement, Kant est né donc à Königsberg, il a donc actuellement Kaliningrad, et il a fait l'objet tout récemment encore, il y a deux jours, une controverse entre Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Poutine, chacun essayant de se réclamer de Kant. Bon, je ne sais pas si Scholz est kantien, mais je suis sûr que Poutine, lui, ne l'est pas. Parce que, évidemment, dès lors qu'on a une conception de la raison, de l'universel, comme étant liée à une culture, la culture russe, par exemple, qui vaut, au fond, comme supériorité par rapport à d'autres, alors on trahit Kant, oui, très certainement.
On se retrouve dans une vingtaine de minutes, Michael Fessel, pour parler de Kant. Kant, qui apparaissait sur Terre il y a 300 ans, Kant et l'équivoque du monde, c'est l'un de vos livres publiés aux éditions du CNRS, et puis un livre collectif Kant inactuel d'Antoine Grandjean aux Presses universitaires de France qui va paraître dans quelques jours, 7h56 sur France Culture.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Retour à la philosophie, et notamment la philosophie kantienne. Kant est né il y a 300 ans, vous nous avez expliqué, Michael Fessel, vous qui êtes philosophe, professeur à l'École Polytechnique, vous nous avez expliqué pourquoi Kant était aujourd'hui incontournable dans une réflexion philosophique. Kant qui était également essentiel pour penser les Lumières, pour penser peut-être les Lumières européennes. Et on vient de parler d'Europe. Un commentaire, Michael Fessel.
Dans les Lumières européennes, justement, elles ont ce paradoxe de ne pas pouvoir être qu'européennes. Et donc, au fond, Kant, c'est un penseur de l'Europe, mais qui a comme horizon, si je puis dire, le monde. Hein. Il est associé surtout à l'idée de cosmopolitisme. Alors, pour réagir à ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, bon, il a rappelé, je crois que c'est sa formule, hein, notre Europe est mortelle. Donc, ça, c'est plutôt une référence à Paul Valéry. Hein. Nous savons que les civilisations sont mortelles. Kant n'aurait pas dit, je pense, notre Europe. Hein, j'ai trouvé une citation de Kant sur l'Europe. Il écrit, j'appelle européenne une nation pourvu qu'elle admette une contrainte conforme à la liberté. Il y a cette phrase, alors ça c'est typique de l'époque des Lumières, hein, une sorte d'arbitraire, j'appelle européenne n'importe quelle nation à partir du moment où elle se soumet à l'état de droit. On voit bien que l'Europe ici n'est pas un principe géographique, elle n'est pas réduite à des frontières sur lesquelles le président a insisté beaucoup. Au fond, il y a une idée d'Europe. Alors évidemment, on peut dire que c'est de l'européocentrisme, en un sens c'est une manière de comprendre l'universel sur le modèle de l'Europe, mais c'est aussi une forme, je dirais, de cosmopolitisme. cosmopolitisme, c'est-à-dire que l'Europe, c'est plus une idée qu'un continent, et c'est une idée qui, aux yeux de Kant, et peut-être faudrait-il s'en inspirer aujourd'hui, continuerait à orienter l'action des États de droit, car l'une des crises fondamentales, me semble-t-il, hein, je ne suis pas expert en la matière, que traverse l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle est traversée par des vagues qu'on appelle populistes, que moi j'appellerais plus volontiers nationalistes, plutôt hostiles aux Lumières et à l'État de droit. Donc l'optimisme européen de Kant ne s'est pas forcément retrouvé dans le discours du président. Il y a des raisons objectives à cela, mais on est plus aujourd'hui du côté de l'Europe forteresse que de l'Europe ouverture, en particulier cosmopolitique.
Jean-Lémarie.
Et en même temps, hier, Emmanuel Macron disait « Nous, Européens, nous ne sommes pas comme les autres ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à la lumière aussi de cette histoire philosophique ?
Nous ne sommes pas comme les autres, mais les autres ne sont pas non plus comme nous. Et d'une certaine manière, ils s'en portent peut-être parfois pas plus mal. Donc, c'est vrai que dans l'Europe, dans l'idée d'Europe, dans l'Europe des Lumières, il y a l'idée que l'Europe est, au fond, historiquement, au XVIIIe siècle, à un moment, alors d'invention, entre guillemets, de l'universel, avec tout ce que cela peut comporter, évidemment, de tout à fait discutable. Mais l'Europe, moi, je suis fidèle à l'idée d'Europe, au sens plutôt où l'Europe, c'est un principe de désappropriation. C'est pour ça que cette formule « notre Europe », »,« nous autres Européens », avec nos racines qu'on placera ou bien dans les Lumières ou bien dans le christianisme, me paraît beaucoup plus suspecte. L'Europe est intéressante comme idée, en tant qu'en même temps qu'elle proclame l'universel, elle proclame qu'elle ne l'incarne pas. À partir du moment où l'Europe devient un principe, je dirais, limitatif de l'universel, ou surtout alors, bon, l'Europe encore n'est pas tellement en cause aujourd'hui, je trouve qu'on a un usage peut-être un peu hyperbolique du concept d'Occident. L'Occident, c'est bien, donc c'est l'Europe plus les États-Unis, et plutôt les États-Unis avant l'Europe, c'est une manière de réclamer l'universel pour soi-même, ce qui est complètement contradictoire, en tout cas pour Kant le serait de manière certaine.
Mais une politique kantienne est-elle possible? Alors, je parle sous le contrôle de Jean-Lémarie. Kant, non seulement une étape essentielle dans l'histoire de la pensée, mais aussi dans l'histoire de la philosophie morale. Alors, par exemple, sa condamnation du mensonge, est-ce que ça n'est pas incompatible avec toute forme de discours politique?
Oui, la condamnation du mensonge, elle a lieu en morale, c'est-à-dire que pour Kant, pour le dire rapidement, au fond, lorsque je mens, je présuppose que l'autre croit en la vérité, donc c'est contradictoire d'une certaine manière. Un monde, le grand critère de la morale pour Kant, c'est ce que je veux faire et ce que cela pourrait devenir une loi universelle, c'est l'impératif catégorique. Donc si je décide de mentir, évidemment, je dois me poser la question de savoir si un monde dans lequel le mensonge serait la loi universelle serait encore habitable. Et au fond, non, puisqu'aucune confiance ne serait possible. Alors, ça, c'est pour la morale, mais Kant est quelqu'un qui distingue la morale de la politique. Ça ne veut pas dire qu'il valorise le mensonge en politique, mais en politique, la politique n'est pas régie par la morale. Il n'attend pas des hommes politiques qu'ils soient moraux, parce que la morale est intérieure. Au fond, on ne peut pas savoir exactement, il n'y a pas lieu de savoir d'ailleurs s'ils sont moraux. En revanche, il considère que la morale doit, c'est sa formule d'ailleurs, la politique, pardon, doit plier le genou devant le droit. L'état de droit, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'État doit se soumettre au droit de l'homme, pour le dire rapidement, est un principe absolu pour lui. En particulier, un des motifs, et ça renvoie d'ailleurs à la question de l'Europe aujourd'hui, un des motifs très originaux de sa pensée, c'est ce qu'il a appelé les droits du citoyen du monde, qui sont en fait les droits des étrangers, et qu'il a défini déjà en 1795, où il considérait, donc à la fin du XVIIIe siècle, où il considérait que le fait que les étrangers, que des étrangers soient présents sur le territoire d'un État, ne les habilitait peut-être pas à être ou à devenir des nationaux de cet État, mais étaient citoyens du monde. C'est-à-dire qu'ils devaient être traités par des voies juridiques. Il avait un argument assez intéressant pour cela d'ailleurs, et je crois aussi actuel, il disait, finalement, la Terre est ronde, c'est-à-dire qu'elle est finie, elle est limitée. Autrement dit, les hommes pourront au bon se séparer les uns des autres autant qu'ils voudront, ils sont condamnés à la promiscuité d'une certaine manière. C'est un rappel de la finitude de la Terre, alors même qu'on est à l'époque de l'espace infini de Newton. La finitude de l'espace, de l'astre, pardon, terrestre, qui aurait peut-être des échos aussi écologistes, c'est une raison pour partager le monde, pour Kant. C'est une raison réaliste, en quelque sorte. Nous n'avons pas de plan B pour la planète. C'est déjà une thèse kantienne.
Et on vous doit un livre qui demeure absolument d'actualité, un livre intitulé « Récidive 1938 aux presses universitaires de France » où vous pensiez les concordances de temps entre notre époque et celle des années 30. Et justement, Michael Feussel, ces années 30, elles sont marquées, bien sûr, par la montée montée du nazisme, la montée du nazisme dans un pays qui était aussi la patrie de Kant. Comment penser justement cette contradiction, le fait que cet homme qui incarne la philosophie allemande aux côtés peut-être d'Hegel est aussi l'homme qui est de la même nationalité que les nazis qui ont pris le pouvoir dans les années 30?
Les nazis étaient assez hostiles à Kant, même s'ils ont, ils avaient une capacité de récupérer un peu, Johann Chapoutot l'a montré, récupérer un peu n'importe quel auteur, mais enfin leur référence allait quand même plus spontanément à Nietzsche. Alors comment l'expliquer? C'est la question de la singularité de l'histoire allemande. Vous dites Kant était allemand, c'est juste, mais il était allemand à la fin du 18e siècle, donc il était prussien, il n'y avait pas encore d'unité allemande, et l'unité allemande s'est faite très tardivement, seulement à la fin du 18e, et à la fin du 19e, pardon, et par conséquent, il y a dans la singularité, bon, qui n'est peut-être pas si singulière que ça d'ailleurs, mais enfin de l'histoire allemande, évidemment, ce sentiment d'être tard venu à la table, je dirais, des États-nations, et la nécessité, bon, qui est étudiée par les historiens, la nécessité vécue en tout cas par beaucoup d'Allemands, y compris les nazis, de devoir constituer un propre colonialisme à l'Est, en l'occurrence, c'est-à-dire au fond, de vouloir s'affirmer sur un mode nationaliste. Kant, évidemment, pense à la fin du 18e, le nationalisme, le fait national n'existe pas encore et particulièrement pas en Allemagne, ce qui lui permet d'être un penseur justement cosmopolitique, de penser à l'horizon du monde, peut-être d'une manière certainement naïve aujourd'hui, mais il est aussi, ça rappelle aussi l'histoire contemporaine, il a été en tout cas l'instigateur symbolique, je veux dire, de la constitution de la Société des Nations au moment de Wilson, après la Première Guerre mondiale, et de l'ONU. Alors évidemment, on voit là, à la fois, je dirais, l'inspiration universaliste, il faut régir les règles entre États, les rapports entre États par le droit, plutôt un tribunal qu'une guerre, en quelque sorte, mais peut-être et certainement aussi les limites, parce que la souveraineté des États demeure inentamée aujourd'hui, on le voit bien.
Et alors justement, est-ce que c'est cette pensée-là qui est en crise? Et je me réfère toujours à votre livre Récidive 1938, Michael Fessel, ce que vous avez écrit, ce sentiment qu'on a tous d'inquiétude vis-à-vis de la survie de la démocratie, qui a été d'ailleurs évoqué par Emmanuel Macron hier dans son discours de la Sorbonne, mais de manière différente, parce que je crois que lorsque Valéry disait que les civilisations étaient mortelles, il pensait finalement à une autre forme de mort que la mort banalement politique de l'Europe. Justement, cette inquiétude-là, où en êtes-vous par rapport à elle?
Depuis que j'ai écrit le livre que vous évoquez, elle ne s'est hélas pas tarie, elle s'en serait même plutôt agrandie. L'inquiétude dont je parlais, elle a peut-être un rapport aussi avec le destin des Lumières. C'était pas tellement l'inquiétude, parce que ça, l'affaire était déjà réglée en 38, relativement à ce qui se passait en Allemagne ou en Italie, mais à ce qui se passait en France avant la défaite de 1940, c'est-à-dire à la manière dont, à mes yeux du moins, la France s'était dédémocratisée, avait déjà anticipé, en quelque sorte, par des mesures de plus en plus autoritaires, avait déjà anticipé ce que deviendra par bien des aspects, particulièrement d'ailleurs sur la manière dont étaient traités les étrangers à l'époque, ce que fera par ailleurs, ou par après, le régime de Vichy. Bon, alors, comparaison, évidemment, n'est pas raison, mais cela étant, je constate que l'opposition qui était faite au fond entre les nations qui seraient restées qu'anciennes, hein, les États de droit, la France, l'Allemagne, et puis des pays qui, en Europe, auraient suivi une voie qu'on appelle, peut-être à tort, illibérale, en tout cas, disons, très autoritaire, la Hongrie, la Pologne jusqu'à récemment, et désormais aussi l'Italie. Cette opposition, évidemment, elle est de plus en plus émoussée, puisque on voit bien quand même que dans les pays qui, bon, et évidemment, nous ne sommes pas encore au cas de la, au pas où on est la Hongrie, mais même dans notre pays, la relativisation de l'État de droit, des devenirs de plus en plus autoritaires, et puis le traitement même des étrangers, avec, bon, ça n'est pas finalement, ça n'a pas été constitutionnalisé, mais car ce n'était pas constitutionnel, mais le fait d'introduire la préférence nationale dans la loi. Alors ça, pour le coup, c'est anti-kantien, si vous voulez. Parce que la thèse de Kant, c'est de dire que nous sommes des sujets de droit inconditionnellement. Hein. C'est-à-dire que même si nous ne sommes, c'est ça sa grande idée d'ailleurs, nous sommes citoyens du monde, autrement dit, même si nous ne sommes pas nationaux, c'est-à-dire n'avons pas la nationalité d'un État, nous devons être traités par la voie juridique et pas par des voies administratives.
Mais alors, il y a une autre forme de kantisme qui est profondément en crise. Pour Kant, la modernité, c'est l'indifférence à l'égard des formes substantielles du bien, autrement dit, l'idée que, finalement, je ne peux pas juger de ce qui est bon pour autrui. Et on voit en politique, je parle bien de la politique et pas de la morale, de plus en plus de discours sur ce qui est bon pour autrui ou ce qui n'est pas bon. Par exemple, la question de l'avortement, c'est typiquement une question où on juge à la place d'autrui ce qu'il doit faire. Différentes questions sont ainsi posées qui ne sont pas du tout kantiennes. Alors, est-ce que Kant s'est trompé sur la manière dont il observait la modernité, Michael Fössel?
Je crois qu'il s'est pas trompé. Peut-être que quand on parle, par exemple, de ces questions sur l'avortement, mais aussi de la manière dont de plus en plus les conceptions substantielles du bien reviennent à l'avant-plan du débat politique, en fait, on est infidèle aux lumières. Les conceptions substantielles du bien, ça veut dire que, au nom d'une conception généralement religieuse, d'ailleurs, à la fois anthropologique et religieuse du bien, au fond, on va s'opposer à des modes de vie, à des formes de vie qui y contreviendraient. Hein, donc, les partisans de la vie, comme il s'autoproclame, contre le droit à l'avortement, par exemple. On voit bien qu'effectivement, la politique contemporaine se reconstitue en Europe beaucoup autour de ce qu'on appelle d'ailleurs la civilisation ou le conflit de civilisation, c'est-à-dire des éléments que Kant a absolument voulu exorciser du politique. La politique, c'est de la forme, pour lui, c'est du droit, c'est des procédures, d'une certaine manière. Et de ce point de vue-là, il y a certainement, alors, je dirais, une défaite de la pensée kantienne qu'on peut d'ailleurs lire aujourd'hui de manière presque un peu émouvante et un peu inquiétante aussi dans une figure de celui toujours contemporaine, vivante, je veux dire, de celui qui est le grand kantien contemporain, qui est Jürgen Habermas, et qui écrit encore, un philosophe allemand. Philosophe allemand de plus de 90 ans, donc il a traversé tout le siècle, et qui écrit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais s'inspire beaucoup de Kant, c'est-à-dire de cette idée finalement que la délibération, l'opposition des arguments peuvent se substituer à la violence, et qui a beaucoup aussi insisté sur le fait que la politique, ce n'était pas de la morale au sens des enjeux de culture. Les cultures devaient, au fond, d'une certaine manière, se soumettre à l'état de droit, les oppositions culturelles. Bon, et qui aujourd'hui, malgré son grand âge, ne cache pas une sorte de mélancolie à l'égard de son propre modèle, si vous voulez, kantien des Lumières, considérant que, évidemment, l'évolution de la politique dans les démocraties est de plus en plus inquiétante, parce que reviennent à l'avant-poste du débat des questions sur qu'est-ce qu'une vie bonne et par conséquent aussi qu'est-ce qu'une vie mauvaise. Hein. Bon, et ça, c'est des questions qui, chez Kant, au fond, et chez Habermas aussi, devaient être neutralisées, c'est-à-dire qu'au niveau, en tout cas, de l'État, des États, il n'y a pas à décider de ce qu'est une vie bonne. Aujourd'hui, au fond, je suis, moi, assez inquiet, et Habermas aussi, ce qui est encore plus important, du retour en force du thème des valeurs. Bon, les valeurs sont un peu, je dirais, à l'ordre du jour dans tous les systèmes, y compris quand on parle des valeurs de la République. Bon, pour Kant et pour Habermas, et pour moi, je dois dire, il y a des principes de la République, c'est-à-dire que ils se fondent sur la raison. Les valeurs, c'est toujours l'idée d'un polythéisme des valeurs, comme dirait Max Weber, c'est-à-dire, au fond, nous avons des évaluations, des préférences, et là où il y a violence en politique, c'est lorsque une communauté religieuse ou autre porte ses valeurs, ses évaluations au rang de l'universel et veut les imposer aux autres.
Bon, mais imaginez un dialogue, Michael Fössel, entre Kant et un interlocuteur illibéral. Je ne sais pas, Donald Trump et Emmanuel Kant. Bon, ça serait assez bigarré. Et alors, est-ce que Donald Trump pourrait rétorquer à Kant? Il pourrait le critiquer en lui disant que finalement, ce que Kant décrit, c'est plus le monde tel qu'il devrait être, alors que lui, Donald Trump, décrit le monde tel qu'il est. Et que c'est pour cela que, finalement, une politique qui serait une politique véritablement cosmopolitique est impossible à mener. C'est pour cela aussi que une politique des valeurs est essentielle. Cette distinction qu'on pourrait faire entre l'idéal et la réalité, est-ce que ça n'est pas une critique justement à adresser à Emmanuel Kant?
En tout cas, moi, je n'abandonnerai pas le réel à Trump, ni à aucun de ses représentants, même en France, parce que, en fait,
notez bien que c'est au nom du réel.
Lui, c'est toujours, évidemment, oui, c'est au nom du réalisme et en général contre les bonnes âmes kantiennes. Bon, ça, c'est pas ou de gauche, je dirais plutôt Trump. Bon, simplement, le réalisme dont on parle ici, ou le pseudo-réalisme, c'est le réalisme au fond des rapports de pure puissance et même parfois de violence. Et cette idée qu'au fond le réel suppose d'une certaine manière l'identitaire. ce qui est devenu réel aujourd'hui, ce seraient les identités qui en fait sont plutôt imaginaires. Ce réalisme, ce pragmatisme mène, on le voit d'ailleurs, de plus en plus à la guerre, à la violence. L'idéalisme de Kant, si on entend par là, enfin, c'est pas une utopie, son idéalisme cosmopolitique, je ne dis pas qu'il est facile, ni même peut-être souhaitable en toute occasion d'essayer de le réaliser institutionnellement, mais je dirais que si on parle de l'Europe, précisément, il a tout de même, enfin pas Kant directement, mais cette idée que les institutions, les procédures, les principes l'emportaient sur les oppositions, je dirais, de croyances et de valeurs, a contribué fortement aussi, ce n'est pas le seul élément évidemment, à maintenir l'Europe dans la paix après la Deuxième Guerre mondiale. Ce que Kant sans doute a méconnu, c'est le poids, je dirais, de l'histoire et de la mémoire dans le fait d'activer ces principes juridiques rationnels, ceux qui ont gouverné la France après, enfin l'Europe après 1945. Aujourd'hui, cette mémoire s'efface, c'est certain, et sans doute avec elle a-t-on tendance à effacer les principes, disons républicains au sens traditionnel du terme, hein, Kant était d'ailleurs un républicain, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, la souveraineté du peuple, la séparation des pouvoirs, les principes de la liberté et de l'égalité fondamentale entre les hommes ne sont pas seulement des chimères, mais ce sont des conditions pour garantir un système politique qui ne sombre pas dans la violence. Car dans le réel de Trump et dans le réel des extrêmes droites qui sont triomphantes aujourd'hui en Europe, l'horizon de cela, il n'est pas revendiqué, mais il est tout de même plus ou moins avoué, c'est la guerre des civilisations, c'est les universaux qui s'opposent les uns avec aucun moyen de prendre un point de vue de surplomb qui les jugerait et qui permettrait de les départager pacifiquement.
Bon, alors maintenant je vais prendre un point de vue moins radical que Donald Trump, et un point de vue par exemple sociologique, parce que finalement ce que Kant nous invite à faire, comme vous nous l'avez expliqué Michael Fossel, c'est l'universalisation de nos maximes, de nos manières de voir et de nos manières d'agir, donc il ne faudrait agir que en imaginant que tout le monde agissent de la sorte, mais dans une société, nous dit par exemple Émile Durkheim, les choses ne se déroulent pas de la sorte, et Durkheim nous dit par exemple que l'homme moyen a une moralité médiocre et qu'il faut faire avec, qu'il faut construire justement une société sur cette base-là, surtout à l'époque où les religions ne sont plus présentes. Alors comment concilier cette manière de voir qui est désenchantée et cette manière de voir extrêmement exigeante de Kant qui nous demande donc d'avoir une vue altière sur nos actes.
Je pense qu'il faut demander à un philosophe ce qu'il peut vous donner. Et Kant a beaucoup pensé du point de vue, je dirais, des idées, mais sur l'empirique, c'est-à-dire le sociologique en l'espèce, je pense que Durkheim, que vous connaissez mieux que moi, mais est effectivement plus éclairant. Cela dit, Durkheim était en un sens aussi kantien. Hein. Du point de vue politique, il pensait justement que l'État, alors, par différence avec la société, devait être républicain, c'est-à-dire organiser en quelque sorte les oppositions sociales et culturelles de manière pacifique. Que Kant n'ait pas été, bon, c'est un homme du XVIIIe siècle, la question du déterminisme social apparaît au XIXe, qu'il n'ait pas été sensible à la question, disons, des pesanteurs sociales, à la fois des appartenances de classe et des croyances culturelles, c'est certain. Il revendique même une sorte de formalisme qu'on pourrait juger trop abstrait. Mais simplement, moi, je n'opposerais pas la vie réelle sociale, où se jouent des déterminismes, où se jouent évidemment des tendances à l'opposition selon que l'on soit riche ou pauvre, ou selon que l'on soit croyant ou incroyant. Je n'opposerai pas cela, cette richesse parfois un petit peu violente de la vie sociale, à des principes qui seraient absolument extérieurs à elle, parce que finalement le pari démocratique, ou le pari républicain, pour prendre le terme consacré, c'est précisément de trouver au niveau politique des procédures qui permettent d'organiser les conflits. Alors les organiser sans les soumettre évidemment à un principe qui soit un principe de domination, organiser les conflits, ne pas les nier non plus, ne pas essayer d'extorquer un consensus social à tout prix, mais trouver des institutions, et Kant était un penseur aussi, des institutions qui permettent finalement aux oppositions de valeurs, aux oppositions de croyances, et aussi, alors Kant là-dessus n'en a pas beaucoup évoqué, il faudra attendre plus tard Hegel et surtout Marx, aux oppositions de classe, aux oppositions sociales, de trouver des moyens de se résorber relativement, en tout cas de ne pas, les inégalités sociales ne doivent pas atteindre un tel degré qu'au fond même la liberté des citoyens en serait atteinte.
Michael Fessel, vous êtes philosophe, vous êtes aussi professeur de philosophie. Si l'on veut découvrir Kant, alors il y a un certain nombre de livres, Kant et l'équivoque du monde.
Bon, c'est pas celui que je conseillerais en première lecture.
Qui est publié aux éditions du CNRS. Non, je dois quand même citer les ouvrages de mes invités, l'ouvrage collectif Kant inactuel d'Antoine Grandjean, qui paraîtra au PUF. Mais si l'on veut donc une forme d'initiation peut-être plus douce, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos camarades auditeurs qui voudraient se familiariser avec la pensée de Kant?
Il se trouve que Kant a écrit toujours deux registres de livres, le difficile et celui, non pas du tout pour les nuls, mais celui un petit peu plus populaire. C'est-à-dire, par exemple, pour chaque critique, il y a un petit texte qu'il a écrit après pour rendre sa philosophie un peu plus compréhensible. Donc, plutôt que de lire des commentaires, bon, il en existe beaucoup et certains sont excellents, je conseillerais à un lecteur qui serait intéressé à découvrir Kant, par regarder, par exemple, un livre qui s'appelle, le titre n'est pas engageant, je vous l'avoue, mais Les prolégomènes à toute métaphysique future qui voudra se présenter comme une science. Dites les prolégomènes.
Qu'est-ce que ça veut dire, prolégomène?
C'est les préparatifs, ceux qui permettent de préparer. Donc, c'est les principes mêmes, qui est la version, je dirais, plus simple de la critique de la raison, plus accessible. Bon. Et puis, pour la morale, ceux qui s'intéresseraient à la morale, je leur conseillerais de lire Les fondements de la métaphysique des mœurs plutôt que la critique de la raison pratique, qui est un texte plus systématique. Kant est un auteur qui est relativement difficile. Une fois qu'on a compris son vocabulaire, il le devient beaucoup moins. Et puis, il y a quand même quelques textes qui sont bien écrits. Kant n'était pas, c'est certain, un styliste, mais qui ont un certain souffle, et alors pour le coup, une certaine actualité. Par rapport au sujet que nous avons évoqué aujourd'hui, je conseillerais Vers la paix perpétuelle, qui est un livre de fondation quasiment même de l'idée européenne et cosmopolitique, et qui en plus est un livre qui essaie de démontrer pourquoi la guerre est l'autre de la raison et doit être combattue autant que possible par tous les moyens, ce qui est d'une triste actualité.
Merci beaucoup, Michael Fessel, de nous avoir présenté cette pensée qu'ancienne. Je rajoute donc un dernier livre, Récidive 1938, le livre que vous avez signé aux Presses universitaires de France.
Se préparer au grand oral du bac, prendre la parole en public, défendre ses arguments lors d'un débat, déclarer sa flamme. Bien parler et savoir se faire entendre, ça s'apprend.
J'essaye de transmettre par des livres ou par des enseignements ce que j'ai appris en matière de prise de parole en public.
Ma parole, entraînez-vous à l'art de bien parler avec Bertrand Perrier, réalisé par François Test sur franceculture.fr et l'application Radio France.